Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 3. Je n'arrête pas de vous en parler et je ne suis pas la seule, je crois que vous êtes perfusés à la nouvelle loi bioéthique. Nous attendons tous les décrets avec autant de ferveur que le palmarès des Oscars, et je pense que j'en suis loin quand on réfléchit à l'impact que celle-ci aura dans nos vies, dans celle des futurs parents, dont je ne fais plus partie, surtout. Cette loi, je vous le rappelle, pour la forme, ouvre la PMA à toutes, mais hélas, pas encore à tous. Sous cette forme, et sans campagne de communication autour du don, elle va avoir des conséquences dramatiques sur l'accès à la parentalité de l'ensemble des couples, passant par les SECOS en France, et au final, elle ne va faire que renforcer nos déplacements vers les pays sachant encourager le don et accompagner nos parcours. Alors on le sait, mais force est de constater en écoutant David que finalement nous n'avons qu'une vague idée de l'étendue du manque de donneurs en France. Les chiffres sont affligeants, et il y a urgence à mobiliser. Le don de sperme est simple, il demande de donner un peu de son temps et beaucoup d'amour à des personnes qui ne peuvent accéder à la parentalité qu'avec une aide médicale. Il nécessite surtout beaucoup de communication pour rassurer et briser les tabous autour de cet acte généreux. Il demande de la conviction et un peu d'audace de la part de nos dirigeants, parce que voter une loi sans mettre en face les moyens nécessaires pour pouvoir la mettre en application revient à nier et bafouer une fois de plus nos parentalités. David est donneur de sperme par pur altruisme, parce qu'il a cette conscience qu'il peut aider et donner facilement de son vivant sans que cela implique un processus compliqué et sans crainte de la douleur. Il a souhaité témoigner parce qu'il a cette conscience de l'urgence de vulgariser ce type de don. Il est informé et souhaite éclairer à son tour. Merci David pour ta générosité et ton humanité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour David.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet entretien et surtout de m'avoir sollicité parce que c'est toi qui es venu vers moi pour me proposer de me raconter ton histoire et particulièrement ton histoire actuelle de don de sperme. Je pense que c'est clairement, enfin tu vois, je l'ai dit juste avant l'enregistrement, je n'avais pas eu moi l'idée d'aller à la recherche d'un donneur de sperme pour l'interviewer. Et pourtant, je l'ai fait dans le sens inverse. En tout cas, je cherche activement une mère porteuse pour pouvoir l'interviewer. Mmh. Et vu la loi qui se profile, donc je précise qu'on enregistre, on est au mois de juin, donc la loi n'est pas encore passée. Et j'espère que quand l'épisode sera diffusé, la loi sera votée, passée et mise en place, même si on va croiser les doigts. Donc au moment où on enregistre, en tout cas, c'est pas le cas. Mais on a bien conscience, toi comme moi, qu'on va très certainement manquer de donneurs en France. Mmh. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Alors, je m'appelle David, j'ai 32 ans et je suis graphiste. et j'habite à Bordeaux.
Ah ben ça c'est marrant, on est voisins donc.
Oui, c'est ça. voilà, ça fait bien les choses finalement. Oui,
tout à fait. Alors, tu es venu vers moi donc sur Instagram, comme je le disais, parce que tu t'es lancé dans un parcours de dons. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle a été ta réflexion par rapport à ça et pourquoi en fait tu as fait ce choix-là ?
Alors, il y a plusieurs raisons. J'ai toujours été dans la démarche de faire des dons. Donc, je sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être mon éducation ou c'est peut-être par rapport à mes parents qui ont toujours voulu aider comme ils pouvaient aider, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit auprès de leurs amis ou que ce soit auprès d'associations. Et en fait, je donnais déjà mon plasma. Je pouvais pas donner mon sang parce que, comme vous le savez, quand on est homosexuel, on peut pas donner son sang. Donc là, avec la nouvelle loi, ça va évoluer. Je sais que ça va évoluer, mais en tout cas, je voulais donner. Donc, de mon vivant, ce que je pouvais donner, c'est mon plasma dans l'état actuel des choses. Et au fil de discussions avec mes amis, j'ai des amis, un couple d'amis qui ont décidé de faire une PMA. Et de faire une PMA à l'étranger et elles m'ont dit que elles avaient aussi regardé en France et que déjà la loi n'est pas encore passée mais qu'aussi il y avait une pénurie de donneurs de spermatozoïdes et donc du coup moi j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Enfin, je me suis
D'accord.
dit, c'est quelque chose. Enfin, j'ai vu toute la démarche qui est quand même longue et onéreuse, qu'on passe par beaucoup d'embûches. Et du coup, moi, j'ai voulu absolument mettre ma pierre à l'édifice et pouvoir de moi-même essayer d'aider. En fait, les couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants ou en tout cas qui avaient des difficultés pour avoir des enfants. Donc, je me suis dit, moi, je peux faire quelque chose, ben, je vais le faire à fond. Donc, voilà, je me suis lancée là-dedans.
D'accord. Et le don de sperme, du coup, en tant qu'homosexuel, n'est pas proscrit, en fait ?
Non, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tous les hommes de 18 à 45 ans. Donc, en fait, il faut juste avoir l'accord du conjoint si on n'est pas axé ou marié. Et être en bonne santé. Mais ça, après, je t'expliquerai les différentes...
Oui, on va en venir après au parcours.
Là, hétéro comme homo, tout le monde peut donner ses spermatozoïdes.
D'accord. Et donc, du coup, suite à cette discussion avec ton couple d'amis, toi, tu te dis, pourquoi pas, je vais me lancer. Quelle recherche tu fais pour pouvoir commencer, en tout cas, à te renseigner ?
Alors, c'est vrai que là, il faut partir un petit peu de soi-même. Alors, moi, j'adore mener des petites enquêtes, faire des recherches. Donc, je me suis direct connecté sur Internet et j'ai tapé. Alors, moi, je n'y connaissais absolument rien. Personne, je connais pas dans mon entourage, je connaissais personne qui avait donné ses spermatozoïdes. Donc, tout bêtement, j'ai tapé don de spermatozoïdes sur Internet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait se rapprocher des SECOS. Donc, c'est des centres SECOS.
Sur Bordeaux,
des centres SECOS un petit peu partout en France. Ouais, il y en a un à Bordeaux. Et en fait, il est rattaché au CHU de Bordeaux.
D'accord, oui, ce qui est logique puisqu'il est rattaché à la PMA de Bordeaux. Donc, puisque le SECOS, c'est la PMA.
Donc après, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est le centre SECOS, SECOS, ça veut dire Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Donc voilà, et
d'accord.
En fait, il est constitué d'une équipe médicale, donc il y a des médecins, des biologistes, des psychologues, des généticiens, des techniciens, et d'une plateforme de cryobiologie spécialisée. Donc ça, je me suis renseigné par rapport au site internet, et j'ai eu un petit mail contact. J'ai écrit un mail avec « Bonjour, je suis David, et voilà, je souhaite donner mes spermatozoïdes ». On était... au moment du Covid encore, c'était l'année dernière, fin d'année dernière. Donc, il y avait pas mal de stops par rapport au contexte.
Oui.
Mais j'ai décroché un premier rendez-vous du au SECOS.
D'accord. Et du coup, ce premier rendez-vous... Donc, toi, quand tu vas sur Internet, tu remplis, je suppose, déjà un petit formulaire pour avoir un rendez-vous ?
Alors non, j'ai pas rempli de formulaire préalablement. En fait, je suis allée directement au Sécos et là j'ai rencontré un médecin qui a là rempli des informations. C'était un rendez-vous préalable. Je pense, alors je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'était le responsable du centre. En tout cas, il y a un médecin responsable du centre qui discute avec avec toi de ton profil. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'il note, il a un papier où il note les aspects physiques, donc cheveux bouclés, raides, carnation de la peau, couleur des yeux. Donc ça, en fait, je pense que c'est très utile après pour en fait que ça correspondent au futur couple demandeur. Et il regarde aussi, il fait une sorte de petit arbre généalogique avec, il me demande vos parents, combien de frères et sœurs ils ont, est-ce qu'il y a eu des maladies dans la famille. Il fait une sorte de schéma comme ça et il demande plein d'informations. Et en fait,
tu rentres tout de suite dans le vif du sujet en fait.
Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, sachant qu'en fait, c'est pas le seul spécialiste que je vais rencontrer, mais ça, c'est la première étape. Et du coup, moi, quand j'ai réalisé cette première étape, j'ai été de suite pris dans cette expérience et j'avais qu'une envie, c'était de continuer parce que on voit qu'on est utile en fait. Il nous dit que en Aquitaine, par exemple, alors là, moi, j'ai repris des informations, mais je savais pas qu'il y avait aussi peu de donneurs en. Alors après, je parle pas des dons d'ovocytes aussi qui sont encore plus en pénurie. Mais je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, en 2016, il n'y a eu que 22 donneurs.
Oh là là, mais c'est rien du tout.
Non, c'est rien du tout. Et après, sachant qu'il y a quand même, alors là, je pense que c'est en France, mais il y a 3000 couples en attente. Donc, en fait, je discutais ensuite avec une autre responsable du centre, je raconterai après, chaque couple... À partir du moment où ils commencent les démarches pour avoir ce don de sperme, ils ont entre un an et demi d'attente. Et là, je parle que des couples hétérosexuels qui en ont droit en ce moment même. Donc, en fait, quand on t'explique tout ça, là, je me dis, bon, ben, moi, là, vraiment, j'ai envie de continuer dans ce projet, j'ai envie d'aider. Et voilà. Et en fait, ça a été un petit peu frustrant pour tout te dire parce qu'en fait, j'ai eu ce premier rendez-vous et c'était reparti pour les confinements, etc. Donc, en fait, entre ce premier rendez-vous et la suite, il y a eu 6 mois. Donc, stand-by, que ça a été un impact aussi pour les couples qui étaient en attente.
Ouais. Il y a eu 6 mois à cause du contexte ou parce qu'il te laisse un délai de réflexion ?
Non, il ne laisse pas de délai de réflexion, mais en fait, il y a eu le contexte et c'était mon premier rendez-vous, je crois que c'était fin décembre, donc il y avait déjà eu le deuxième confinement et après, il y a eu une espèce de latence là jusqu'à quelques mois, donc en fait, voilà, il y avait stand-by, moi je relançais, mais voilà, jusqu'à là, il y a quelques mois où c'est reparti.
C'est très étrange, sachant qu'ils sont en manque de perdre, entre guillemets, de perdre autant de temps, c'est fou. Ouais. Ça me dépasse un peu.
Je pense que c'était aussi par rapport aux conditions sanitaires et peut-être, je ne sais pas, aux priorités. Je ne sais pas du tout les raisons pour lesquelles ça avait été en temps stand-by, mais en tout cas, le principal, c'est que maintenant, tout est bien reparti.
D'accord, ok. Donc, tu fais ce premier rendez-vous, tu as un délai qui... est un délai par défaut, en fait. Il n'y a pas de raison spécifiquement à ce délai. Ouais. Toi, pendant ce temps-là, comment tu te sens ? Est-ce que tu es toujours très assurée de ta démarche suite à ce premier rendez-vous ? Est-ce que tu te poses des questions ?
Alors,
quel est ton ressenti ?
Ah oui, alors ça, c'est un truc que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que en fait, c'est très récent et je crois qu'il me posait ces questions par rapport à la nouvelle loi qui allait arriver. Alors, sachant qu'on le sait tous, la loi, elle a été retardée, elle est repassée au Sénat. Diminuer tout ça, mais il m'avait dit est-ce que vous souhaitez, alors ça va arriver dans la nouvelle loi, que à partir de leurs 18 ans, les enfants issus de vos dons puissent connaître votre identité.
Donc, oui, c'est vrai, puisque maintenant les donneurs vont être semi-anonymes.
Oui, voilà. Donc du coup, moi j'ai dit il n'y a aucun problème, voilà. Enfin, moi je souhaite, j'ai signé un papier comme quoi j'étais OK pour lever l'anonymat à 18 ans. Donc voilà. Et quand tu me disais voilà mes moments de réflexion après, pendant ce moment de pause. En fait, ben, moi, je les ai utilisés pour en parler à mon entourage, en parler à mon conjoint aussi. À Florent, je lui ai dit, voilà, enfin, il était déjà au courant que j'allais avoir ces rendez-vous, mais moi, il m'a totalement soutenu dans cette démarche, enfin, qui est une démarche vraiment pour aider des gens qui sont dans des attentes. Donc, j'en ai discuté avec mes parents, et voilà, moi, j'avais, voilà, enfin, moi, vraiment, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais en fait, je suis tellement heureux de pouvoir aider d'autres personnes que j'avais qu'une envie, c'était de, voilà, de continuer dans cette démarche, mais voilà, j'ai continué, moi, à attendre, et j'ai fait ma petite vie à côté, quoi. Donc, il n'y avait pas de problème.
Et comment ça a été accueilli, justement, par ton entourage?
Alors, je sais pas pourquoi, mais quand on parle de dons de spermatozoïdes dans l'entourage, des fois, ça fait rire les gens. Je sais pas, peut-être parce que ça rapporte au sexe ou quelque chose. Donc, au début, on dit « Ah, les dons de spermatozoïdes, voilà, ça fait... » Et en fait, après, moi, mon travail, ben, c'est toujours mon travail dans le quotidien, même pas que pour ces sujets-là, c'était d'éduquer aussi ben, mon entourage et d'expliquer ben, que, voilà, enfin... plein de couples qui sont en attente, qu'il y a peu de donneurs encore en France. Alors après, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication aussi à ce niveau-là, parce que c'est un don gratuit. Dans d'autres pays, c'est des dons qui sont rémunérés. Non, mon entourage, après, en fait, après réflexion et après quand j'explique, ils sont vraiment reconnaissants. Je voudrais dire, bah, c'est bien ce que tu fais, David. Enfin, continue. Et en fait, je me rends compte quand j'en parle à mon entourage que c'est vraiment des univers. En fait, je pense que les gens qui n'ont pas de problème avec leur fertilité, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, qui sont pas concernés par ce niveau-là, ils connaissent pas du tout, en fait, je pense.
Oui, c'est ça. Et puis, ils ont même pas idée de l'utilité d'un tel don. Je pense qu'il va vraiment falloir que la France communique et revoie les choses par rapport à ses besoins.
Oui. C'est ça, et en fait, souvent, même pour plein d'autres sujets, en fait, tant qu'on n'est pas directement concerné, c'est difficile de connaître vraiment le bénéfice.
Comprendre les enjeux, oui.
Oui, et surtout de comprendre que ben on a des millions de spermatozoïdes, nous les hommes, et qu'on se rend pas compte qu'il y en a, que ça pourrait vraiment faire des heureux.
Est-ce que on t'a donné un petit peu, hormis les stats du nombre de donneurs, combien de couples toi tu pourrais aider juste avec un don ou pas?
Oui, en fait, alors ça vient plus tard, mais je pense que après ça peut arriver au début aussi. C'est qu'en fait, dans tout ce processus de don, il y a un rendez-vous obligatoire avec une psychologue. Et en fait, cette psychologue, pendant une heure, elle veut savoir un petit peu nos motivations, pourquoi on veut donner, et elle nous explique aussi tout ça. Donc en fait, nous, on fait cinq dons. Et en fait, je crois que un donneur, il peut, je sais pas comment dire ça bien, mais en fait, nos dons vont permettre au maximum la naissance de 10 enfants.
D'accord. Dans 10 familles différentes ou ça comprend les frères et sœurs, enfin les fratries?
Alors ça, je saurais pas te dire, mais en tout cas, c'est 10 naissances. Et en fait, il y en a pas plus. D'accord. Parce qu'en fait, c'est pour éviter tout ce qui est consanguinité, apparemment. Oui. Donc en fait, il y a 10 naissances du don. Sachant que après, ce qu'il faut savoir aussi, et ça, j'étais pas au courant, c'est que en fait, c'est pas parce qu'on souhaite être donneur qu'on peut être donneur. En fait, m'a appris aussi qu'il y avait que un tiers des donneurs qui étaient retenus. C'est par rapport aux analyses qu'on fait. En fait, entre l'entretien avec le médecin et le premier don, on passe toute une batterie d'examens. Qui recherche des facteurs de risque génétique, des antécédents de maladies graves, et je sais que même si ça veut pas dire que nous on n'est pas malade, mais en tout cas des fois il y a des risques biologiques qui font qu'on peut pas donner. Donc voilà, moi j'ai fait tous ces examens et en fait au final j'ai été élue, retenue. Donc j'étais très content.
Et en fait, c'est à l'issue du premier rendez-vous où d'office, on te donne des ordonnances pour pouvoir aller faire tes analyses ?
Oui, c'est en fait, c'est pas le médecin qui nous donne les ordonnances directement, mais avant le premier don, on doit faire 48 heures avant toutes ces analyses-là. Donc c'est des.
Ah, d'accord, ok.
J'avais jamais fait autant d'analyses de sang, du coup, voilà, avec mais aussi tout ce qui est le VIH et les HIV, enfin, c'est la même chose, pardon, mais les
ISST. Oui, toutes les maladies sexuellement transmissibles, tout ça.
Voilà. Et aussi des recherches.
D'accord.
Même, je crois que j'ai vu passer cholestérol ou tout ça, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, on fait plein d'analyses pour être sûr qu'on est en bonne santé.
Est-ce que tu sais s'ils font des analyses génétiques, s'ils te demandent de... Bon, tu m'iras en 48 heures, c'est pas possible, je pense. Mais bon, si on va chercher le génome ou si on va pas aussi loin.
Peut-être, parce que c'est vraiment des analyses très poussées. Mais ce que je peux te dire aussi en complément de ta question, c'est que quand on fait le premier don de sperme, le premier don est analysé aussi. Je sais pas si on appelle ça un spermogramme, mais ils analysent aussi ça. Donc en fait, vraiment, ils font des analyses très très poussées dans leur centre.
D'accord, oui, et puis ils vont analyser aussi la mobilité, enfin en tout cas voilà, l'efficacité, on va dire, des spermatozoïdes, je suppose.
Oui, voilà. Donc du coup, je t'avoue que j'ai été très content de savoir que ben, tout était en ordre à ce niveau-là aussi.
Parfait. Mais c'est toujours très rassurant.
Oui, voilà.
D'accord, ok. Et alors donc, premier rendez-vous, 6 mois de délai, qu'est-ce qui s'est passé au bout des 6 mois? C'est à ce moment-là que tu vois la psychologue, c'est ça?
Non. Alors après, ça dépend parce que au niveau de la disponibilité de la psy. Mais moi, le rendez-vous suivant. Alors j'ai eu les examens biologiques du coup et le rendez-vous suivant. Ben voilà, c'est parti. Donc on fait le premier don.
Ah oui, direct.
Oui, en fait, j'arrive à l'hôpital. C'est trop marrant parce que en fait, j'arrive à l'hôpital et en fait, c'est au niveau de la maternité. Enfin de, donc du coup, je suis dans la salle d'attente avec toutes les mamans au début, et du coup, je suis le seul mec. Mais voilà, et après, t'arrives dans le laboratoire, et du coup, là, moi, ce qui m'a vraiment ému, c'est que, alors, je pouvais pas le dire, bien sûr, mais en fait, je suis dans une salle d'attente avec aussi les couples qui sont en attente de ces dons-là, ou en tout cas, qui vont avoir recours. Et du coup, moi, je suis là avec dans la salle d'attente. Et du coup, voilà, ça m'a vachement ému quand j'étais en train d'attendre.
Tu t'imaginais déjà pouvoir leur faire ce don à eux.
Ouais, oui. Bon, après, c'était pas question que je dise « Ah, ben vous savez, moi, je suis donneur. » Mais en fait, j'étais juste content de voir qu'il y avait... voilà. Et en fait, on s'imagine... Enfin, alors, je sais pas si je peux dire ça, mais moi, quand je m'imaginais donner à des couples, je sais pas, j'avais jamais posé un visage sur, on se disait juste couples qui peuvent pas avoir d'enfants hétérosexuels, mais en fait quand on les voit en vrai, c'est assez émouvant. On voit qu'il y a de tous les styles de couples, tout type de personnes, c'est en fait on voit qu'on est vraiment des vrais gens quoi. Donc voilà, et après avoir... Ouais.
Et du coup, me vient une question. Alors, je suppose que la réponse va être non, mais dans le doute, je te la pose quand même. Et est-ce que quand tu vois le premier médecin ou la psychologue, il est évoqué le fait que tu puisses potentiellement donner à des couples homosexuels ?
Non, en fait, ça, on n'a pas du tout de marge de manœuvre là-dessus.
C'est assez logique, en même temps que tu n'es pas un droit de regard, on va dire, sur à qui tu donnes. Mais dans la mesure où il y a une loi qui va passer et que certaines personnes pourraient être freinées par rapport à ça, je me demandais s'ils en parlaient au moins, tu vois, qu'ils évoquaient le sujet.
Là, vraiment, moi, j'ai été surpris de la... Voilà, de l'ouverture et aussi de la bonne communication là-dessus. Moi, j'en avais même pas parlé, même avec les médecins, ils m'en ont parlé, ils ont parlé, oui, vous savez, qu'à partir, ils avaient l'air trop contents que cette nouvelle loi arrive parce que pour eux, c'est leur but, c'est leur métier, je pense que leur quotidien, c'est d'aider tous les gens. Et ils me disaient que voilà, il y allait encore avoir. Alors, malgré toute cette attente qu'il allait avoir, donc là, il y a déjà 1 an et demi d'attente, et quand ça va être ouvert aux femmes célibataires et aux couples de femmes, ben on va augmenter le nombre de bénéficiaires. Donc, je pense que voilà, moi, c'est pour ça aussi que je voulais parler avec toi, c'était pour dire que voilà, il va avoir des demandes supplémentaires et que peut-être que ça va déclencher chez certains l'envie de, voilà, d'aider des gens.
Ouais, effectivement, je pense que tu vas effectivement susciter des vocations, on va dire, entre guillemets.
Ouais.
Et donc, tu me disais, par rapport à la suite de ton parcours, tu fais ton premier don, tu vois la psychologue en suivant, les médecins sont assez ouverts. Qu'est-ce qui se passe après?
Alors, après le premier don, donc, alors déjà pendant le don, il y a aussi un don, enfin, c'est pas un don, c'est il faut faire un test urinaire, je crois. Et après le premier don, s'enchaîne, ben, en fait, à chaque fin de premier don, donc après, pour être totalement transparent, un don, ça se passe dans une salle avec vraiment le strict minimum, une chaise, les deux. Alors, il y a l'espèce de petite fiole pour faire une analyse d'urine et ensuite une sorte d'entonnoir, donc voilà, où on fait notre don. Ensuite, la biologiste récupère ce don-là et en fait, à chaque fois, on cale le prochain rendez-vous. Il faut savoir qu'avant le premier don, il ne faut pas avoir de rapport sexuel ou en tout cas d'éjaculation dans les 3 à 5 jours précédents.
D'accord, ok.
Donc voilà. Et ensuite, il y a en tout 5 dons à réaliser, sachant que les 5 dons, on peut les réaliser en 5 semaines, en fait, toutes les semaines. Il faut juste voilà, avoir cette abstinence-là. Et on peut faire, en tant que donneur de spermatozoïdes, un 6e don qui est conservé pour nous, pour plus tard.
Ok. Ah, c'est chouette aussi. Comme ouais. ça, enfin, tu vois, c'est une sorte de... dédommagement, si on peut dire. Je sais pas, c'est très
bien. Ouais, voilà. En fait, j'ai décidé de le faire. En fait, moi, sachant que là, au moment où je te parle, il me reste encore 2 dons. Un pour les personnes dans le besoin et le 6e.
D'accord, ok. Et du coup, donc à chaque don, tu reprends rendez-vous pour le don suivant, en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Donc en fait, après, en fonction de tes disponibilités, il y a un don que, en tout cas, moi, ça m'est arrivé d'en faire 2 fois, 2 semaines d'affilée, ou des fois en fonction des vacances ou quoi, comme tout, de prendre rendez-vous pour après.
D'accord, ok. Bon, mais c'est franchement, ça, quand tu le décris comme ça, ça a l'air extrêmement simple. Je pense qu'en vrai, ça l'est et que ça pourrait justement intéresser bien. Enfin, voilà, ça prend un peu de temps, c'est sûr. C'est un don de soi aussi, mais clairement, c'est pas insurmontable.
C'est pas insurmontable. Après, c'est juste qu'il faut y aller. Enfin, il faut trouver les informations un petit peu soi-même parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication à ce sujet. Mais je pense que toute personne qui peut se connecter, il tape Sécos dans sa région. Et après, ben, tout s'enchaîne en fait. C'est comme des. Ben, alors, oui, certes, ça prend du temps et je sais que le temps est précieux. Mais voilà, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde, en tout cas de 18 à 45 ans.
Oui, voilà, et puis effectivement, oui, le temps est précieux, mais si on a vraiment cette envie de, enfin cet altruisme, hein, on va dire, de venir en aide à des gens, c'est finalement très faisable, c'est pas douloureux, soyons d'accord, c'est pas quelque chose qui demande un investissement de soi, enfin c'est ouais, ça paraît plus simple.
Oui, ça paraît plus simple et surtout que, enfin, on voit tellement de personnes qui galèrent dans leur processus d'avoir un enfant et on se dit que avec cette aide précieuse qu'on peut leur apporter et qui est assez simple à réaliser, il faut se dire que ça va rendre heureux des milliers de couples hétérosexuels comme homosexuels à avoir des enfants.
Et est-ce que tu as suscité des vocations? Est-ce que dans ton entourage, il y a des gens qui sont partis du coup faire des dons aussi ou en tout cas qui ont commencé un parcours de donneur?
Non, pas du tout. En fait, je me rends compte que malgré le fait que j'en parle beaucoup autour de moi, je ne sais pas si c'est par rapport au temps ou planning ou même j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils souhaitaient pas le faire parce que ils me disent mais tu trouves pas ça bizarre toi David que il y ait des que tu aies des enfants partout autour de toi. J'ai fait bah non, déjà moi je ne considère pas que ce sont mes enfants en fait. Si je fais ça, c'est les enfants des couples. Mais non, après, je comprends qu'il y ait des gens qui ça peut faire bizarre, mais moi, en fait, le fait de savoir que certains vont accéder au bonheur grâce à moi, c'est tout ce qui me suffit, en fait. Donc,
Oui, voilà. Mais après, tu vois, je pense que derrière la crainte des gens, c'est la vraie crainte, c'est la transmission du patrimoine génétique.
Oui.
Et c'est ça qui peut freiner, tu vois. Enfin, c'est vrai qu'il y a des fois où tu te dis... c'est difficile dans la tête de certaines personnes, et je le comprends, de faire le distinguo entre un enfant à soi, de soi, ouais. Et juste la transmission de ce patrimoine génétique qui, finalement, tu transmets un ovocyte ou un spermatozoïde, mais c'est tout derrière. C'est pas toi, c'est pas ton enfant, c'est pas ton éducation derrière, tu vois.
Exactement. Et après, peut-être que moi, j'ai été aussi sensibilisée par rapport à toutes les informations que je récolte, parce que dans quelques années, moi aussi, j'aurai besoin de l'aide de deux petites fées. Donc, je me suis dit, je vais être la fée de quelqu'un.
Mais complètement.
Et en fait, je pense que si j'avais pas été dans cette situation-là, moi, j'aurais peut-être pas eu la même sensibilité sur ce sujet-là.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire justement. C'est que tu es sensibilisé, vous êtes sensibilisé, la communauté homosexuelle est évidemment sensibilisée à nos besoins. Parce que quand on veut des enfants, on est obligé d'avoir recours à des donneurs de notre côté, ou à une donneuse et une mère porteuse. Ouais. Et clairement, si chacun d'entre nous sensibilisé pouvait proposer le don, ce serait déjà une grande révolution, je pense.
Exactement. Je pense que c'est exactement ça. T'as bien résumé.
Merci. Est-ce que tu sais tu t'es renseigné par toi-même. Est-ce que en te renseignant, tu as découvert peut-être des associations qui proposaient d'accompagner ou de guider aussi autour du don, ou pas du tout?
Non, pas du tout. J'ai pas trouvé. Alors peut-être qu'il en existe. Je sais qu'il y a des associations plus globales qui existent autour de l'homoparentalité, et même des fois c'est plus accès adoption ou accès GPA ou PMA. Mais des associations qui sensibilisent ou qui accompagnent par rapport à cet univers-là, non, j'en ai pas entendu parler, en tout cas dans la région.
Je suis d'accord avec toi, et j'ai bien l'impression que c'est aussi un des problèmes, c'est que pour mobiliser, il faut être... les médecins actuellement qui vont mobiliser ou qui vont tirer la sonnette d'alarme, parce que d'une, c'est pas leur métier, de deux, ils ont déjà pas le temps de grand-chose, donc ça, ils auront certainement pas le temps. Et clairement, il y a quelque chose qui va devoir se jouer en France, parce qu'on n'a pas, on a vraiment pas assez de donneurs, et ça ne va que contribuer à maintenir nos parcours à l'étranger, en fait.
Exactement. Et j'espère qu'aussi, par rapport à cette nouvelle loi qui va être mise en place, qu'il y aura tout un processus de communication qui va être mis en place, que ce soit pour sensibiliser justement les personnes qui vont avoir besoin de ces dons, mais aussi sensibiliser les gens qui peuvent donner, pour leur dire que comme on fait par exemple pour le don du sang ou pour le don de plasma.
Oui, c'est ça. Il y a des campagnes.
On a besoin de vous. Je sais que là, par exemple, moi, quand j'arrive au CHU de Bordeaux, il y a des grandes banderoles. Donnez votre sang, aidez. Ça va pouvoir marcher. Faudrait que là, il y ait aussi de la com, même dans les régions, quoi, au niveau, même si ce n'est qu'au niveau de l'hôpital, en fait, de savoir qu'il y a ça, parce que moi, quand j'arrive faire mon don, je passe par un service, je prends un ascenseur, je vais au sous-sol, je marche tout au fond du couloir, c'est vraiment, faut trouver, quoi.
Ouais, c'est un peu tabou, quoi.
Oui.
Mais je rêve de voir des grandes banderoles partout avec marqué « Donnez votre sperme » ou « Donnez vos ovocytes hein. ».
En fait, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait déjà eu des campagnes de com par rapport à ce sujet-là, mais c'est vraiment très, très éparse, quoi.
C'est très sensible. Hein.
Ouais.
Donner son sang, c'est pas pareil que transmettre son patrimoine génétique, si les gens le voient comme ça, tu vois.
On le voit dans les manifestes. Que c'est encore un sujet très sensible.
C'est encore très sensible. Mais j'ai espoir, et je pense que ça va avancer. Et aujourd'hui, je pense que ton témoignage va clairement susciter des vocations. En tout cas, moi, j'ai envie de le croire. J'ai envie de croire que ça va permettre à des gens de réagir. Parce que moi, les chiffres que tu m'annonces, déjà, ils me font réagir. 22 donneurs en Nouvelle-Aquitaine, qui est quand même la plus grande région de France. C'est juste ridicule. C'est sûr qu'il y a... Face au nombre de couples qui sont en attente, mais clairement... tout le monde ne pourra pas être servi, si on peut dire ça comme ça. Donc, il faut qu'on agisse, nous aussi, parents et futurs parents, pour sensibiliser de notre côté les personnes qui peuvent donner à donner.
Exactement. Et quand on voit aussi que ce qui est d'autant plus important, c'est que, à savoir, c'est que c'est pas parce que moi je vais faire mes 5 dons que ça va marcher à tous les coups. Et on le sait que dans un processus de PMA, il y a des tentatives, plusieurs tentatives en fait. Donc en fait, il y a 22 donneurs. Mais combien de réussites à chaque fois. Donc c'est pour ça que il faut dire aussi que ça ne marche pas à tous les coups et que c'est pour ça qu'il faut encore plus d'aide. Voilà.
Et est-ce que tu sais si toi tu es susceptible d'être rappelé si tu ne fournis entre guillemets pas 10 enfants sur ces 5 dons là, est-ce que tu es susceptible d'être rappelé pour pouvoir subvenir à nouveau à des besoins de la banque?
Peut-être, c'est possible. À voir. En tout cas. Ce qu'elle m'a dit au niveau des dons là, c'est que c'est quand on fait les dons, c'est utilisé très rapidement. Il y a tellement d'attentes en fait qu'ils vont pas être utilisés dans un an. C'est là quoi. Enfin, ça va.
Ouais, ils sont en flux tendu quoi. Enfin, clairement, ils sont en flux tendu.
Exactement.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, David ?
Non, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. C'était vraiment pour partager cette expérience-là. Depuis que tout ça est mis en place, je crois qu'il y a 80 000 enfants qui sont nés grâce à l'aide de spermatozoïdes de donneurs en France.
Waouh.
Les dons de spermatozoïdes, c'est pour les hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'ont pas de spermatozoïdes, qui ont des spermatozoïdes détruits lors d'un traitement médical ou des hommes qui risquent de transmettre aussi une maladie grave. Donc, ce n'est pas forcément des donneurs qui ont des soucis au niveau des spermatozoïdes. Et après, je crois que j'avais tout dit, que le don, il était volontaire, gratuit et entre guillemets anonyme, puisque après, il y aura la nouvelle loi qui va être mise en place. Et voilà. Non, c'était pour te partager aussi la motivation que j'avais eue. Et ça, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là.
Et clairement, c'est une très, très belle motivation. Je comprends que c'est essentiellement que ton éducation a joué énormément dans cette volonté, cette motivation de don. Et je pense que c'est à nous aussi de sensibiliser nos enfants pour le futur sur le fait qu'on peut donner, plein de choses. Plein de choses qui n'ont pas un coût pour nous ou qui vont avoir peut-être un petit coup de temps, tu vois. Ouais. Mais qu'aujourd'hui, on peut sauver des vies, on peut créer des vies grâce à nos dons.
Oui, exactement. Et qu'on peut... Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut donner de son vivant et que finalement, il y a ça, il y a les spermatozoïdes et que c'est peut-être un petit peu de temps pour... dans notre quotidien, mais que c'est du temps qui est très précieux et encore plus quand on est dans des situations comme nous, quand on est homosexuel et que voilà, on a des démarches un peu plus longues pour avoir des enfants, il faut se dire que voilà, si nous-mêmes on peut aider, voilà, ça va rendre heureux plein de personnes.
Bien des familles. tu as raison. En tout cas, je te remercie beaucoup, David, d'avoir partagé ton parcours et ton altruisme, parce que c'est clairement de l'altruisme avec nous. Et j'espère que tu auras effectivement créé des envies. Et je te tiendrai au courant si j'ai des gens qui viennent vers moi pour me demander, me poser plus de questions, me dire que ça les a tentés et qu'ils vont tenter l'aventure. Mais voilà, merci, parce que je pense que des témoignages comme le tien, il n'y en a pas assez, il y en a trop peu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu de donneurs aussi, parce que il n'y a pas, tu vois, enfin, quand tu t'identifies à quelqu'un ou quand tu te rends compte que tu peux faire ce genre de aider comme ça et que ça te coûte pas grand chose, tu le fais beaucoup plus facilement.
Exactement, je suis d'accord avec toi. Il suffit juste d'en parler, de pouvoir peut-être créer des envies. Et en tout cas, je te remercie aussi beaucoup, Constance, pour ton accueil.
Je t'en prie. À très bientôt, David.
À très bientôt, Constance.
On estime en 2018 que 3,4% des enfants nés en France étaient issus d'un parcours de PMA. 5% de ces enfants ont été conçus grâce au sperme d'un tiers donneur, soit environ 1250 enfants. On estime aussi qu'il y a deux fois plus de donneuses d'ovocytes que de donneurs de sperme en France, ce qui est très étonnant au regard du niveau de contraintes engendrées par les deux types de dons.
Environ 3500 nouveaux couples hétérosexuels s'inscrivent chaque année pour bénéficier d'un don. En 2018, il fallait entre 1 et 3 ans pour bénéficier d'un don de gamètes. Cette prise de conscience sur les chiffres de la PMA en France est nécessaire. J'ai confiance dans le fait qu'informer sur les besoins est le premier levier de réussite d'une campagne de communication. Messieurs, nous avons besoin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, je vais vous inviter à le partager, à le diffuser, et je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour pouvoir continuer à échanger sur ce sujet et sur bien d'autres. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien. Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Alone.